SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 126, et comme à l'accoutumée, je suis avec notre très cher ami Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Et on va parler d'un très cher ami Oswald. Qui l'eût cru, monsieur David Cameron, l'artisan du marasme britannique à l'heure actuelle, ancien Premier ministre britannique donc, et de retour au sein du gouvernement donc britannique en lui-même. Une surprise, je pense que c'est le mot général. On peut pas vraiment dire autre chose.
En politique, Christophe, on n'est jamais vraiment mort. Et je crois que David Cameron, c'est l'illustration de cet idiome.
Alors, c'est un chat à 9 vies. Enfin, voilà, il a eu plusieurs vies. Mais là, voilà, c'est le retour au sein du gouvernement, à un poste clé en plus.
Bah, c'est le retour, Christophe, finalement, peu de temps après son éviction du gouvernement et peu de temps après aussi, après la confession de ses mémoires, de ses tranches de vie, de ses règlements de compte avec Michael Gove, avec Boris Johnson. Donc déjà, on est quand même très peu de temps après cela. Et surtout, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est un poste clé. C'est le foreign affairs, c'est les affaires étrangères, diplomatiques, à un moment où, il faut le rappeler quand même, où il a à gérer à la fois ce qui se passe en Ukraine, aux portes de l'Europe, et la crise majeure qui est en train et qui n'est pas finie au Proche et Moyen-Orient. Donc c'est effectivement un retour à la fois surprise d'une personnalité qui a mis le Royaume-Uni dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui.
Alors autant dire par contre, à la base, il faut dire ce qui est, le Premier ministre britannique n'avait pas vraiment le choix que de licencier, on va dire, gentiment, son ancienne ministre de l'Intérieur, qui vraiment était parti dans une conquête, alors on va pas dire d'extrême droite, mais parce que bon, c'est dur de diviser les camps dans une politique qui est pas la même que nous, mais bon, elle a pris une ligne ultra dure sur certains propos qui ont énormément choqué, même en Grande-Bretagne, même au sein des siens. Elle pouvait simplement ne pas rester au sein du gouvernement. C'est ce qui a permis, entre guillemets, ce jeu de chaises musicales.
Alors, je pense que vous faites référence, Christophe, à Suella Braverman.
Oui, j'aurais dû dire son nom aussi. Ça m'écorchait quand même.
L'ex-ministre de l'Intérieur, effectivement, elle est la ministre, la politique de tous les excès verbaux au Royaume-Uni ces derniers mois. Et d'ailleurs, son limogeage récent n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase déjà d'une situation qui s'était tendue entre elle et le Premier ministre Rishi Sunak.
Alors, il faut juste rappeler qu'elle avait été ministre sous Liz Truss, elle avait été licenciée, enfin, elle était renvoyée, on va dire, et elle a été rappelée au sein de ce gouvernement. Donc, elle aussi, elle a eu plusieurs vies, et ça, je vous parle, dans l'espace de 8 jours, je crois. C'était 8 à 10 jours, elle a été licenciée et rappelée au sein du nouveau gouvernement en 8-10 jours.
Oui, et en plus, rappelée au même poste.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, ce qui est bizarre, en fait, c'est très politique. Hein. Suella Braverman, c'est vraiment l'aile dure, l'aile droite du parti conservateur britannique. C'est pour ça qu'elle avait le soutien appuyé de Rishi Sunak. Mais encore une fois, là, ces dérapages verbaux, et notamment son dernier qui était une critique de la police britannique lors des manifestations monstres par rapport au conflit au Proche-Orient, ces dernières critiques envers la police ont été la goutte d'eau de trop. Aussi pour des questions formelles, Christophe, parce que elle avait envoyé un communiqué, une publication où elle avait qualifié les marches de marche de la haine, et en fait elle n'avait pas eu l'accord de Downing Street, chose que normalement, selon l'usage, elle devait avoir. Et donc il a profité d'une certaine façon, Rishi Sunak aussi, de cet imbroglio procédurier pour signifier à Suella Braverman que là, il n'était plus question pour elle de rester au sein du gouvernement. Et encore une fois, hein, c'est la goutte d'eau. Hein, elle avait critiqué fortement les vagues migratoires au Royaume-Uni, la situation des migrants en général.
C'était vraiment du hardcore.
Ah, on était dans des... Oui, elle utilisait des termes d'invasion, par exemple, pour parler des réfugiés. Elle avait averti, et là je la cite, d'un ouragan migratoire.
Elle avait dit que si on était... Juste parce qu'on va parler comme ça, hein, on fait un peu les ragots, mais elle avait dit que certains SDF faisaient un choix de vie. C'était un lifestyle choice de vivre dans une tente.
Oui, mais tout à fait. Encore une fois...
Et on paraphrase même pas, c'est ça qui est grave.
Non, on paraphrase pas, mais je pense que là, ce qui a entraîné ça, c'est que, encore une fois, là, c'est ce côté procédurier où elle a parlé, elle s'est exprimée au nom du gouvernement, puisqu'elle a issu un communiqué sans en avoir l'accord, parce qu'elle n'aurait certainement pas eu l'accord. Mais encore une fois, c'est l'étape ultime d'un ensemble à la fois de dérapages verbaux, Christophe, mais aussi, il faut le dire, de petites manigances, de petits arrangements où elle avait utilisé son statut pour obtenir des faveurs, notamment par rapport à des question complètement banale d'excès de vitesse et de rattrapage de points, etc. Donc, effectivement, elle avait été maintenue jusqu'à là par Rishi Sunak parce qu'elle représentait une aile droite dont le Premier ministre conservateur avait besoin, notamment au vu des prochaines élections, parce que après plus d'une dizaine d'années au pouvoir, les conservateurs ont peur de laisser ce pouvoir maintenant au Parti travailliste. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des derniers sondages. Mais là, c'était vraiment trop. Et donc, il a dû limoger sa ministre de l'Intérieur, opérer un petit remaniement, puisqu'il a pris l'actuel ministre des Affaires étrangères pour le mettre à l'intérieur et appeler aux affaires extérieures, aux affaires diplomatiques, David Cameron, qui lui donnera aussi une certaine prestance et une certaine, fenêtre de visibilité qu'il n'avait pas forcément avec d'autres ministres moins connus que ne l'est l'ancien Premier ministre anglais.
Alors c'est vrai que dans la politique britannique d'ailleurs notamment, c'est quand même si on rigole, mais c'est quand même assez rare qu'une fois qu'on a été vraiment au plus haut du pouvoir, donc Premier ministre, on revienne. Le seul qui avait fait ça avant, c'était Churchill après la guerre. Donc c'est la première fois qu'un Premier ministre revient comme ça directement au sein du gouvernement à un poste clé. Donc d'où l'importance de cette Europa Voice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme David Cameron? Qu'est-ce qu'il a appris sur ces dernières années? Parce que rappelons-le que c'est à moitié une blague, mais c'est l'instigateur du Brexit. Tout a débuté avec lui sous sa gouvernance en tant que Premier ministre. Et aujourd'hui, on sait à quel point le pays en paye les habitants en payent le prix. Comment s'est vu déjà premièrement ce retour, puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment à ce gouvernement qui est quand même assez moribond, faut quand même le dire.
Alors sur la question d'abord,
bon, j'attaque direct. Moi,
c'est... Ouais, mais vous avez raison, Christophe, et je crois que c'est ce que nos auditeurs d'Europa Voice veulent aussi. Sur la question d'abord des retours au gouvernement, effectivement, chez les Britanniques, c'est chose assez rare. Maintenant, si on se déplace pas tellement loin, et si on traverse juste la Manche, on a des exemples similaires, par exemple en France, d'un Alain Juppé, par exemple, qui a été Premier ministre et qui après revient justement aux affaires étrangères. Parce que quand on a été à la tête de l'État, alors Premier ministre, ça aurait pu être une autre fonction, mais en tout cas Premier ministre, il est évident qu'après on ne peut pas revenir avec un simple, si on fait l'analogie française, un simple secrétariat d'État. Et en plus, les affaires étrangères revêtent une dimension très symbolique, stratégique, de voix du pays en l'occurrence. Donc d'abord, c'est un cas effectivement rare au Royaume-Uni, mais qui a déjà été vu et observé dans d'autres pays et notamment la France. Ça, c'est pour répondre à la première question. Sur votre question de qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, je crois que c'est le principal intéressé qu'il a lui-même dit de la façon la plus transparente. Ce que va faire David Cameron, c'est, et là je le cite, c'est mettre son expérience au service des défis vitaux du moment. Il a lui-même cité la guerre en Ukraine et la crise au Moyen-Orient. Donc il y a un petit peu de name dropping slash name experience au sein du gouvernement britannique, d'utiliser justement le carnet d'adresses, l'expérience, les responsabilités qu'a eu David Cameron sur des aspects extrêmement importants, stratégiques, macro, pour son pays. Donc je crois que c'est aussi, d'une certaine façon, pour Rishi Sunak, un argument électoral, préemptant un petit peu la période de campagne au Royaume-Uni, de dire, ben voilà, le Parti conservateur est encore capable d'aligner des poids lourds au sein de son gouvernement.
Ouais, alors je vais faire une phrase, mais peut-on encore sauver le soldat Sunak à ce point-là, aujourd'hui, dans la politique australienne, la politique britannique ? Est-ce que c'est assez ?
Ah bah c'est une, les sondages disent non pour l'instant, Christophe. Pour l'instant, il est impossible de sauver le soldat Sunak, mais il a été aussi compliqué à l'époque de sauver le soldat Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss. Le Parti conservateur, on a quand même vu défiler ces dernières années des leaders. Donc on n'est pas, tout ça pour dire que déjà on n'est pas à l'abri d'un changement de leadership en approchant la date fatidique des élections au Royaume-Uni dans un an et demi. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, je crois que c'est aussi un signal fort qui est envoyé en faisant revenir une pointure comme ça de premier plan, de dire qu'il n'est pas impossible, et encore une fois, on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa West, mais il n'est pas impossible aussi que si les responsabilités politiques de David Cameron sont assumé avec succès d'ici aux élections, qu'il ne prenne la tête du Parti conservateur pour les prochaines élections au Royaume-Uni.
Ça va être ma prochaine question. Est-ce qu'il n'a pas laissé entrer le loup dans la bergerie un peu là ?
Il n'avait plus le choix, Christophe Rishi Sunak. Il n'y a plus personne au Royaume-Uni actuellement du côté du Parti conservateur. On l'a vu dans un précédent épisode d'Europa Voice, il y a une espèce de mue du Parti travailliste qui est en train de se détacher un petit peu de l'aile Corbyn, plus vers de la social-démocratie qui est en train de se reconstituer. Mais du côté du Parti conservateur, on a l'impression que toutes les cartes de la main ont déjà été jouées. Donc on est obligé de faire appel à des gens d'expérience. Et puis, d'une certaine façon, le temps a aussi fait son effet. C'est-à-dire que David Cameron a effectivement reconnu tout le cynisme. Alors, il a reconnu qu'il n'avait pas le choix de faire ce référendum à l'époque. Et d'ailleurs,
ça va jamais être de sa faute.
Non, voilà, ça va jamais être de sa faute. Il est peut-être trop fier, trop anglais pour dire qu'il avait le choix de ne pas le faire. Donc ça, il reconnaîtra jamais qu'il l'a. Mais peut-être qu'il, maintenant, il est capable, en tout cas, de reconnaître que c'était une mauvaise décision.
Dans le monde anglo-saxon, il n'y a rien de tel qu'un bon mea culpa. On le sait. D'accord. On dit pardon, on move on. C'est une réalité dans la politique australienne, britannique et américaine. C'est une vraie tradition dans le monde anglo-saxon.
Mais il a déjà fait un peu, Christophe, sur ce point. Il a déjà fait un peu son... Alors, pas son mea culpa, peut-être à 50%, mais il a estimé, David Cameron, notamment... à travers ses mémoires, déjà que alors bon, il y a de la rhétorique, hein, mais l'échec du Brexit, il l'avait dit, hein, j'y pense tous les jours. Voilà, enfin, il a quand même pris une part d'assumer que ce qu'il a fait, oui, il n'avait pas le choix, mais oui, c'était aussi un échec. Donc, est-ce qu'on va avoir les 50% restants de mea culpa qui vont lui permettre de revenir complètement et de mener les conservateurs vers une victoire, pour l'instant, qui est très peu probable au vu des sondages? Ou est-ce que c'est simplement un pansement ?
Il peut être un bon fusible. Hein. Si on parle de politique, il peut être un bon fusible. S'il y en a un à faire, entre guillemets, sauter, ce sera peut-être lui. Si jamais il faut aller aux élections, et puis on reconstruit derrière. Comme ça, Rishi Sunak, il n'a pas perdu les élections. De ce côté-là, on n'a pas perdu l'élection. On envoie quelqu'un au casse-pipe, quelqu'un qui a déjà eu une première mort, entre guillemets.
C'est possible. Après,
ça vaut... cynique.
Non, mais vous le partagerez avec moi, Christophe. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fusibles qui ont déjà sauté au Royaume-Uni. Donc, je suis pas sûr que l'électricité fonctionne encore.
Voilà, vous écoutez Europa Voice aujourd'hui, toujours avec Nathanaël Bock. On va parler maintenant des relations entre l'Europe et la Suisse. Et cette relation, elle est compliquée, elle dure depuis très longtemps. Du point de vue helvétique, on n'a pas toujours vu l'Union européenne d'un bon œil. Par contre, on commence à faire un petit peu des appels de pied. Enfin, les choses doivent changer, je pense que tout le monde le sait. Et les choses doivent changer du côté européen et du côté suisse. On a juste un peu pris le temps et on prend encore le temps de pouvoir en parler. Et Emmanuel Macron a donc visité la Suisse pour ouvrir le débat ou en tout cas ouvrir les discussions.
Alors déjà... Peut-être pour resituer un peu, parce que c'est pas tous les jours, Christophe, qu'on parle de la Suisse et de l'Union européenne. Juste quelques chiffres pour montrer quand même que c'est un sujet qui existe. C'est une réalité, la coopération entre les deux entités qui existe. D'abord, 60% du commerce de marchandises de la Suisse se fait avec l'Union européenne. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Ensuite, sur une population d'à peu près 9 millions d'habitants, donc un petit pays, la Suisse, il y en a quasiment entre un cinquième et un sixième qui est d'origine de l'Union, qui sont des citoyens en fait de l'Union européenne, qui ne sont pas forcément suisses, des citoyens de l'Union européenne qui résident en Suisse. Donc pareil, en termes de population de l'Union européenne résidant en Suisse, c'est un nombre qui est important.
Et on rajoute dessus la question des frontaliers.
Et la question
est énorme.
La question des frontaliers qui est énorme. Et là, je fais un petit coucou à mes origines alsaciennes. On a à peu près 600 km de frontières communes avec la Suisse. On a 150 000 Français qui vivent en Suisse romande. Et on a un peu plus de 220 000 frontaliers français. Donc, encore une fois, en termes de réalité, les partages de travailleurs, de résidents, etc., c'est quelque chose qui existe, qui est un fait, qui a une petite échelle pour l'Union européenne, mais qui est une grande échelle pour la Suisse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, dans votre question, vous l'avez bien mentionné, Emmanuel Macron, il fait une visite à son homologue suisse à deux titres, au titre de président français. Et ça, on pourra peut-être y revenir, mais les visites des présidents français en Suisse, elles sont très rares. Mais il fait aussi cette visite, j'allais dire, en tant que représentant de l'Union européenne, en tout cas en tant que VRP. Pays membre, VRP, voilà, de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux dans la manière de contractualiser la relation entre l'Union européenne et la Suisse.
Alors, on a parlé dans un épisode précédent d'Europa Voice de l'intérêt de l'Ukraine et de la Biélorussie de pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Quel est l'intérêt pour la Suisse de se rapprocher donc de l'Union européenne? Et est-ce qu'on peut espérer, entre guillemets, est-ce qu'on peut espérer un jour avoir la Confédération helvétique au sein même de l'Union européenne, même une petite entrée, mais au sein même de cette Union européenne?
Alors, je vais répondre d'abord à la dernière question. Que la Suisse fasse partie intégrante de l'Union européenne, soit un État membre, c'est très peu probable.
On en est loin.
On en est loin. C'est d'ailleurs pas du tout à l'ordre du jour. Non, encore une fois, je crois que la question de la relation entre l'Union européenne et la Suisse, c'est simplement de mettre en forme, de mettre en procédure ce qui existe déjà d'un point de vue concret. Dans le fait qu'il y a des coopérations, etc. Mais c'est quelle forme lui donner? Il y a très peu de chances, pour revenir sur cette question, il y a très peu de chances que la Suisse en fasse partie, parce que tout simplement, quelle que soit la décision qui est prise, ça doit être soumis après à référendum. Hein. C'est aussi la beauté de la démocratie.
Votation.
La votation, c'est la beauté de la démocratie participative suisse. Et donc, il y a quand même très peu de chances que ça, pour des questions de souveraineté nationale, il y a très peu de chances que ça passe. Donc,
et puis même de pouvoir, hein. En Suisse, on sait que le pouvoir est beaucoup plus axé vers la Suisse alémanique, qui est aussi un peu plus conservatrice, il faut le dire, et même au sein de leur pays. Donc c'est vrai que c'est pas forcément dans le, entre guillemets, on dirait en anglais, c'est pas le vibe.
Non, c'est pas dans l'atmosphère. Mais ça rejoint la question de la votation, du référendum, c'est qu'aussi c'est une population plus à droite, plus conservatrice, qui ne verra pas forcément un intérêt de rejoindre l'Union européenne, non.
Mais par contre, désolé de vous interrompre, mais du côté de Berne, donc on voit quand même un intérêt. On ferme pas la porte, au contraire, on l'ouvre. On a reçu le président français, on accepte les discussions avec l'Union européenne. On n'est pas réfractaire de ce côté-là, du côté des autorités.
Non, en fait, ce qui est en train de se jouer ou ce qui se joue entre l'Union européenne et la Suisse, c'est simplement de définir encore une fois un accord cadre. Pourquoi un accord cadre? Parce que ça permettrait une reprise automatique de discussion sur un sujet qu'on appelle l'acquis communautaire. Donc en gros, c'est comment est-ce que la Suisse peut d'une certaine façon bénéficier de certaines largesses, et je simplifie pour nos auditeurs d'Europa, mais bénéficier de certaines largesses de l'Union européenne et de son fonctionnement, sans pour avoir autant besoin de rejoindre l'Union européenne. Mais ça, il faut le définir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et les Européens ne sont pas prêts non plus à... Mais ça existe, c'est des relations qui existent. Il y a des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais avec lesquels, et je pense à la Suisse, je pense à la Norvège, je pense à l'Islande, avec lesquels il y a des accords cadres, des accords bilatéraux, qui font que ces pays-là ne sont pas non plus totalement exclus des échanges d'hommes, de commerce, etc. avec l'Union européenne, notamment quand on sait que la Suisse, à la différence de la Norvège ou de l'Islande, la Suisse est un îlot, alors sans accès à la mer, mais est un îlot perdu au milieu d'États membres de l'Union européenne. Donc ça crée encore une situation un peu plus
mais capable de gagner l'America's Cup quand même.
Mais capable de gagner l'America's Cup et capable de protéger le pape de n'importe quel danger avec les gardes helvétiques. Donc en fait, c'est la visite d'Emmanuel Macron, elle est là pour relancer ce processus pour définir cet accord cadre et ses acquis communautaires qui avait été engagé il y a plus d'une dizaine d'années, qui un peu à la surprise de tout le monde, Christophe, avait été rompu par la suite, la Suisse en 2021. Et donc voilà, c'est remettre une pièce dans la machine. Et je vais vous le dire, et là je vais faire un peu de réel politique, je pense que aussi du côté d'Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'il est en train de perdre un peu de terrain sur la scène internationale. Et il y a des très bons articles de nos confrères du Monde sur ce sujet-là où longtemps il y a eu cette dichotomie entre Emmanuel Macron, contestation sur la scène intérieure, politique intérieure, les gilets jaunes, les retraites, etc. Superman à l'international. Avec ce qui se passe, avec l'usure en Ukraine, avec ce qui se passe au Proche-Orient, les atermoiements d'Emmanuel Macron et de la diplomatie européenne, le leader français est un peu en train de perdre sa vista de superbe à l'échelle internationale. Et donc, c'est pas grand chose, ça lui coûte pas grand chose de faire cette visite en Suisse. Quand je vous disais que c'est rare, il faut quand même le savoir, il y a eu que, en termes de visite d'État, la dernière, Christophe, elle remontait à 2015.
François Hollande.
Et au siècle dernier, il y a eu seulement 3 déplacements de chefs d'État français en Suisse. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mm-hmm. C'est un pays frontalier. Donc, il y a aussi un petit enjeu qui va au-delà de l'Union européenne et de la Suisse. Il y a un petit peu un quick win en anglais de la part d'Emmanuel Macron, voilà, de remettre aussi une pièce dans la machine de sa popularité à l'échelle internationale / européenne, parce que ça ne coûte pas grand-chose, parce que c'est une visite éclair. Et donc voilà, il faut aussi prendre ça en contexte. Et d'ailleurs, sans faire encore une fois de prédiction dans les boules de cristal, je pense que ça ne chopera pas grand-chose.
D'accord.
Ça va pas accélérer, ça va pas modifier la relation avec la Suisse. Ils vont peut-être se remettre sur les rangs sur ces acquis communautaires, mais ça va pas tout chambouler et on verra pas demain la Suisse encore une fois toquer à la porte de l'Union européenne comme le font les pays de l'Est européen.
Allez, juste pour boucler la boucle, parce qu'on a commencé au Royaume-Uni, comment on voit ça de Londres? Parce que Londres, on espère aussi avoir une relation un peu spéciale avec l'Europe. On est parti de l'Union européenne, mais on veut pas partir intégralement. On sait qu'au niveau commercial, ils ont toujours un intérêt avec l'Union européenne. Est-ce qu'on regarde ça un peu d'un œil attentif, de savoir comment ça peut se passer avec la Suisse? Est-ce qu'on peut tirer des leçons sur savoir comment aussi maintenant négocier avec l'Union européenne en 2023?
Ah, mais il y a clairement un benchmark qui maintenant est fait par le Royaume-Uni de chaque accord cadre, de chaque accord bilatéral, de chaque traité de libre-échange. On en parle beaucoup des traités de libre-échange ici, Christophe, en Australie, qui est fait par les pays de l'Union européenne. D'ailleurs, fait intéressant pour relier un petit peu toutes les planètes. Le traité de libre-échange, alors que le traité de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Australie se porte plutôt bien, on en est au point mort du traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, alors que on était quasiment arrivé à s'entendre il y a encore pas plus tard qu'un an et demi. Donc le Royaume-Uni effectivement scrute très attentivement chacune de ses négociations politiques, mais pour l'instant, si c'est pour anticiper un peu la prochaine question et la prochaine réponse, il est encore trop tôt pour que le Royaume-Uni vraiment retoque complètement à la porte de l'Europe. Mais il y a aussi des élections européennes qui se profilent l'année prochaine, des majorités qui vont changer au sein du Parlement, et donc à voir aussi quelle va être la nouvelle couleur du Parlement et quelle va être la nouvelle couleur de l'Union européenne, et voir si il n'y a pas une porte d'entrée un peu différente qui permettrait au Royaume-Uni, à la fois avec ses élections européennes mais aussi les élections britanniques qui se profilent, de réentamer des discussions plus sereines sur le futur ou pas du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne.
Absolument, et on sera là dans Europa Voice pour vous décrypter tout ça pour vos oreilles australiennes et à travers le monde. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.